Chapitre 5. Les derniers jours de Vinca Rockwell. Rien ne ravive mieux le passé que l'odeur qu'on lui a autrefois associée. Vladimir Nabokov. 1. Aujourd'hui, 13 mai 2017. Je n'ai jamais reparlé de cet épisode avec mon père, assura Maxime en allumant une cigarette. Un rayon de soleil fit briller la coque laquée de son briquet, un zippo orné de la reproduction d'une estampe japonaise, la grande vague de Kanagawa. Nous avions quitté l'ambiance étouffante du gymnase pour les hauteurs du nid d'aigle, une étroite corniche fleurie qui courait le long d'un éperon rocheux surplombant le lac. « Je ne sais même pas à quel endroit il a emmuré le cadavre », poursuivit mon ami. Il serait peut-être temps de lui demander. Mon père est décédé cet hiver, Thomas. Merde, je suis désolé. L'ombre de Francis Biancardini se profila dans notre conversation. Le père de Maxime m'avait toujours semblé indestructible. Un roc sur lequel venaient se fracasser tous ceux qui avaient l'inconscience de l'attaquer. Mais la mort est une adversaire particulière, celle qui gagne toujours à la fin. De quoi est-il mort ? Maxime inhala une longue bouffée qui le fit cligner des yeux. « C'est une histoire pénible, » prévint-il. Ces dernières années, il passait une bonne partie de son temps dans sa maison d'Aurelia Park. Tu vois où c'est ? J'acquiesçai de la tête. Je connaissais bien sûr cette luxueuse résidence sécurisée sur les hauteurs de Nice. En fin d'année, le domaine a été la cible d'une vague de cambriolages parfois très violents. Les malfrats n'hésitaient pas à pénétrer dans les villas en présence de leurs occupants. Il y a eu plusieurs séquestrations, plusieurs saucissonnages. Et Francis en a été victime. Oui, à Noël. Il avait toujours une arme chez lui pourtant, mais il n'a pas eu le temps de s'en servir. Il a été ligoté et frappé par les cambrioleurs. Il est mort d'une crise cardiaque à la suite de l'agression. Les cambriolages. Une des plaies de la Côte d'Azur. Avec le bétonnage du littoral, les voies de circulation constamment engorgées, la surpopulation due au tourisme de masse. On a arrêté ceux qui ont fait ça ? Ouais, un gang de Macédoniens, des mecs très organisés. Les flics en ont chopé 2 ou 3 qui sont sous les verrous. Je m'accoudai à la rambarde. La terrasse minérale en demi-lune offrait une vue assez époustouflante sur le lac. À part Francis, qui est au courant du meurtre de Clément ? Toi et moi, c'est tout, assura Maxime. Et tu connais mon père, c'était pas le genre à se répandre. Ton mari ? Il secoua la tête.
Putain, c'est la dernière chose que je voudrais qu'Olivier apprenne sur moi. De toute ma vie, j'ai jamais évoqué ce crime avec personne.
Il y avait aussi Ahmed Ghazouani, le chef de chantier. Maxime se montra sceptique. Il n'y avait pas plus mutique que lui. Et puis, quel intérêt aurait-il eu à parler d'un crime dont il était complice ? Il est encore en vie ?
Non. Dévoré par le cancer. À la fin de sa vie, il est retourné mourir à Bizerte.
Je chaussai mes lunettes fumées. Il était presque midi. Très haut dans le ciel, le soleil éclaboussait notre nid d'aigle. Ceinturé d'un simple balconnet de bois, l'endroit était aussi dangereux qu'attractif. De tout temps, on en avait interdit l'accès aux élèves, mais en tant que fils du directeur, j'avais des passe-droits, et je gardais des souvenirs assez magiques de soirées passées avec Vinca à fumer et à boire du mandarinello, pendant que la lune se reflétait sur le lac.
« La personne qui nous envoie ses courriers, c'est forcément ce que nous avons fait !»
s'exaspéra Maxime. Il tira une dernière taffe qui consuma la cigarette jusqu'au filtre.
« Ce mec, Alexis Clément, il avait de la famille ?»
Je connaissais l'arbre généalogique du prof par cœur. Clément était fils unique et ses parents étaient déjà vieux à l'époque. Ils ont dû passer l'arme à gauche eux aussi. En tout cas, c'est pas de ce côté que vient la menace.
« De qui alors ? Stéphane Pianelli ? Ça fait des mois qu'il me colle au basque. Depuis que je me suis engagé pour Macron, il enquête sur moi tous azimuts. Il rouvre les vieux dossiers sur mon père. » Et puis tu te souviens qu'il avait écrit ce livre sur Vinca ?
J'étais peut-être naïf, mais je n'imaginais pas Stéphane Pianelli aller aussi loin pour nous forcer à nous découvrir.
C'est un fouineur, admis-je. Mais je le vois pas encore beau. Il nous rentrerait dedans plus directement s'il nous soupçonnait. En revanche, il a évoqué un truc qui m'a inquiété. Cet argent qu'on a retrouvé dans un vieux casier.
De quoi tu parles ?
Maxime était passé à côté de l'info. Je lui résumais la situation. Les inondations, la découverte des 100 000 francs dans un sac, le relevé des deux empreintes, dont l'une appartenait à Vinca. Le problème, c'est que l'argent a été retrouvé dans mon casier de l'époque. Un peu perdu, Maxime fronça les sourcils. Je développai mes explications. Avant que mes parents soient nommés à Saint-Ex, j'avais postulé pour avoir une chambre que j'ai occupée pendant ma classe de seconde.
Je m'en souviens.
Lorsqu'ils ont obtenu leur mutation et le logement de fonction qui allait avec, mes parents m'ont demandé de restituer la chambre pour qu'un autre élève puisse en profiter.
C'est ce que tu as fait ?
Oui. Sauf que le type en question n'utilisait pas son casier et ne m'a jamais réclamé la clé. Je l'ai donc conservé sans en avoir un grand usage moi-même, jusqu'à ce que, quelques semaines avant sa disparition, Vinca me la demande.
Sans te dire que c'était pour planquer du fric ?
Évidemment ! Cette histoire de casier m'était complètement sortie de la tête. Même lorsque Vinca a disparu, je n'ai pas fait le moindre lien avec cet épisode.
C'est quand même incompréhensible qu'on n'ait jamais retrouvé la trace de cette fille.
2. Appuyé contre un muret de pierre sèche, Maxime avança de quelques pas pour me rejoindre au soleil. À son tour, il me servit l'ancienne à laquelle j'avais déjà eu droit plusieurs fois depuis le début de la matinée.
On n'a jamais vraiment su qui était Vinca.
Si, on la connaissait bien, c'était notre amie.
On la connaissait sans la connaître, insista-t-il.
Tu penses à quoi, précisément ?
Tout prouve qu'elle était amoureuse d'Alexis Clément. Les lettres que tu as retrouvées, les photos où on les voit ensemble, tu te souviens de ce cliché pris au bal de fin d'année sur lequel elle le dévorait des yeux ?
Et alors ?
Alors ? Pourquoi aurait-elle prétendu quelques jours plus tard que le type l'avait violée ? Tu crois que je t'ai menti ?
Non, mais...
Où veux-tu en venir ? Et si Vinca était encore en vie ? Et si c'était elle qui nous envoyait ses courriers ?
J'y ai pensé, admis-je.
Mais pour quelle raison ? Pour se venger ? Parce qu'on a tué le mec qu'elle aimait ?
Je sortis de mes gonds.
Putain, elle avait peur de lui, Maxime ! Je te le jure, elle me l'a dit ! C'est même la dernière chose qu'elle m'a dite. C'est Alexis qui m'a forcé, je ne voulais pas coucher avec lui. Elle racontait peut-être n'importe quoi. À l'époque, elle était souvent un peu stone. Elle prenait de l'acide et toutes les merdes qui lui tombaient sous la main. Je mis fin au débat. Non ! Elle me l'a même répété. Ce mec était un violeur !
Le visage de Maxime se ferma. Un moment, son regard se perdit dans la contemplation du lac, avant de revenir vers moi.
Tu m'as toujours affirmé qu'à l'époque, elle était enceinte.
Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Preuve à l'appui.
Si c'était vrai, et si elle a accouché ?
Son môme doit avoir 25 ans aujourd'hui.
Il y a peut-être un fils ou une fille qui voudrait venger la mort de son père.
L'idée m'avait effleuré. C'était une possibilité, mais qui me paraissait plus romanesque que rationnelle. Un retournement de situation un peu éventé dans un roman policier. C'est ce que je répondis à Maxime sans le convaincre tout à fait. Puis, je me résolus à aborder le sujet qui me semblait le plus important pour les heures à venir.
Il y a autre chose que je dois te dire, Max.
Début 2016, en revenant pour la promotion de mon nouveau bouquin, j'ai eu une altercation avec un officier des frontières, à Roissy. Un connard qui s'amusait à humilier un transsexuel en l'appelant « monsieur ». L'affaire est allée assez loin, j'ai été en garde à vue quelques heures et...
Ils ont pris tes empreintes.
Devina-t-il.
Oui.
Je suis dans le FAED. Ça veut dire qu'on n'aura pas le temps de se retourner. Dès qu'on découvrira le corps et la barre de fer, s'il reste une seule empreinte, mon nom sortira et on viendra m'arrêter et m'interroger.
Qu'est-ce que ça change ?
Je lui fis part de la décision que j'avais prise dans l'avion la nuit précédente. Je te mouillerai pas, ni toi, ni ton père. Je prendrai tout sur moi. Je dirai que j'ai tué Clément tout seul et que j'ai demandé à Ahmed de m'aider à faire disparaître le corps.
On te croira jamais.
Et pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu te sacrifierais? J'ai pas de môme, pas de femme, pas de vie. J'ai rien à perdre.
Non, ça n'a pas de sens,
balança-t-il en clignant des yeux. Ses paupières étaient cernées de cendres et son visage défait, comme s'il n'avait pas dormi depuis 2 jours. Loin de l'apaiser, ma proposition l'avait rendu encore plus nerveux. À force d'insister, j'en compris la raison.
Les flics savent déjà quelque chose, Thomas. J'en suis certain. Tu pourras pas me dédouaner. Hier soir, j'ai reçu un appel du commissariat d'Antibes. C'était le divisionnaire lui-même, Vincent de Bruyne, qui...
De Bruyne, comme l'ancien proc ?
Ouais, c'est son fils.
Ce n'était pas spécialement une bonne nouvelle. Dans les années 1990, le gouvernement Jospin avait nommé Yvan de Bruyne comme procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice, avec l'ambition affirmée de donner un coup de pied dans la fourmilière de l'affairisme azuréen. Yvan le Terrible, comme il aimait qu'on le surnomme, avait débarqué en fanfare sur la côte avec l'image d'un chevalier blanc. Il y était resté plus de 15 ans, guerroyant contre les réseaux francs-maçons et la corruption des élus. Le magistrat avait pris sa retraite récemment, au soulagement de certains. Pour être honnête, dans la région, beaucoup de monde détestait De Bruyne et son côté dalla Chiesa. Mais même ses détracteurs lui reconnaissaient une certaine forme de ténacité. Si son fils avait hérité de ses qualités, nous allions avoir dans les pattes un flic retors, hostile aux élus et à tout ce qui de près ou de loin ressemblait à un notable ou à un marcheur.
Qu'est-ce que t'as dit De Bruyne exactement ?
Il m'a demandé de venir le voir d'urgence, car il avait des questions à me poser. Je lui ai répondu que je passerai cet après-midi.
Vas-y dès que tu peux, que l'on sache à quoi s'en tenir.
J'ai peur,
m'avoua-t-il.
Je posai la main sur son épaule et je mis toute ma force de conviction à essayer de le rassurer.
Ce n'est pas une convocation en bonne et due forme. De Bruyne s'est peut-être fait intoxiquer. Il va sans doute à la pêche aux infos. S'il avait quelque chose de concret, il procéderait pas comme ça.
Sa fébrilité exsudait par tous les pores de sa peau. Maxime ouvrit un nouveau bouton de sa chemise et essuya les gouttes de sueur qui perlaient sur son front.
J'en peux plus de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Peut-être que si on raconte tout à... Non, Max! Essaie de tenir le coup, au moins pendant le week-end. Je sais que c'est pas facile, mais on cherche à nous faire peur et à nous déstabiliser. Ne tombons pas dans ce piège!
Il respira profondément, et au prix d'un réel effort, sembla retrouver son calme.
Laisse-moi enquêter de mon côté. Tout se bouscule, tu vois bien. Laisse-moi le temps de comprendre ce qui est arrivé à Vinca.
D'accord,
acquiesça-t-il.
Je vais passer au commissariat. Je te tiens au courant.
Je regardai mon ami descendre l'escalier en roche, puis suivre le chemin qui serpentait à travers les plantations de lavande. En s'éloignant, la silhouette de Maxime rapetissait et devenait floue jusqu'à s'éteindre, avalée par le tapis mauve.
3.
Avant de quitter le campus, je m'arrêtai devant l'Agora, le bâtiment de verre en forme de soucoupe qui était venu s'arrimer à la bibliothèque historique. Personne à Saint-Ex n'aurait utilisé l'acronyme de CDI pour désigner un lieu aussi symbolique. La sonnerie de midi venait de retentir, libérant une bonne partie des étudiants. S'il fallait désormais un badge pour accéder aux salles de lecture, je m'émancipai de cette contrainte en sautant par-dessus le portillon. Un remake de ce que j'avais vu faire dans le métro parisien par les racailles, les étudiants fauchés ou les présidents de la République. En arrivant aux abords de la banque de prêt, je reconnus Hélène Boekmans, que tout le monde ici appelait Zélie. D'origine néerlandaise, cette intello assez prétentieuse avait un avis définitif et plus ou moins argumenté sur tout. La dernière fois que je l'avais vue, c'était une quadra un peu poseuse qui jouait de son physique athlétique. Avec l'âge, la bibliothécaire ressemblait à présent à une sorte de mamie Nova bohème. Lunettes rondes, visage carré, double menton, chignon gris, pull blousant surmonté d'un col Claudine.
Bonjour Zélie.
En plus de régner sur la bibliothèque, elle s'était occupée pendant des années de la programmation du cinéma du campus, de l'animation de la radio du lycée, ainsi que de la Sophia Shakespeare Company, un nom ronflant pour désigner le club théâtre du lycée, où s'était investie ma mère lorsqu'elle dirigeait les classes prépa.
« Salut, les scribouillards !»
me lança-t-elle comme si on s'était parlé la veille. C'était une femme que j'avais toujours eu du mal à déchiffrer. Je la soupçonnais d'avoir brièvement été la maîtresse de mon père, mais dans mon souvenir, ma mère semblait l'apprécier. Pendant ma scolarité à Saint-Aix, la plupart des élèves ne juraient que par elle, Zélie par-ci, Zélie par-là, la considérant tour à tour comme une confidente, une assistante sociale, une éveilleuse de conscience. Et Zélie, diminutif que je trouvais ridicule, jouait et abusait de cette position. Forte avec les faibles, faible avec les forts, elle avait ses têtes, accordant une attention démesurée à certains élèves, souvent les plus favorisés ou les plus extravertis, et négligeant les autres. Je me souvenais qu'elle adorait mon frère et ma sœur, mais que je ne lui avais jamais semblé être digne d'un quelconque intérêt. Ça tombait bien, cette antipathie était réciproque.
« Qu'est-ce qui t'amène, Thomas ?»
Entre la dernière fois que l'on s'était parlé et aujourd'hui, j'avais écrit une dizaine de romans, traduits en 20 langues et vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde. Pour une bibliothécaire qui m'avait vu grandir, ça aurait dû signifier quelque chose. Je n'attendais pas forcément un compliment, mais au moins une marque d'intérêt, qui ne vint jamais. « Je voudrais emprunter un livre, » répondis-je.
« Je vais d'abord vérifier si ta carte est à jour, »
déclara-t-elle en me prenant au mot. Poussant la plaisanterie un peu plus loin, elle se mit à chercher dans les archives de son ordinateur une hypothétique fiche de bibliothèque vieille de 25 ans.
« Ça y est, je l'ai !»
C'est bien ce que je me disais, il y a deux livres que tu n'as jamais rendus. « La distinction » de Pierre Bourdieu ainsi que « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme » de Max Weber. « Tu déconnes ?»«
Oui, je déconne.
Dis-moi ce que tu cherches. » Le bouquin écrit par Stéphane Pianelli.
Il a participé à un manuel de journalisme publié chez...
Pas ce livre-là, son enquête sur l'affaire Vinca Rockwell, La jeune fille et la mort. Elle tapa le titre sur son ordinateur.
Celui-là, on ne l'a plus.
Comment ça?
Le livre est paru en 2002 chez un petit éditeur. Le tirage est épuisé et il n'a pas été republié depuis.
Je la regardai calmement.
Tu te fous de moi, Zélie?
Elle fit mine de s'offusquer et tourna l'écran de son ordinateur vers moi. Je jetai un œil au moniteur pour constater que le livre n'était pas référencé.
Ça ne tient pas debout, Pianelli est un ancien élève. À l'époque, vous aviez forcément acheté plusieurs exemplaires de son livre.
Elle haussa les épaules.
Si tu penses qu'on achète plusieurs exemplaires des tiens, réponds à ma question, s'il te plaît.
Un peu gênée, elle se tortilla dans son pull trop grand et ôta ses lunettes.
La direction a récemment pris la décision de retirer le livre de Stéphane de la bibliothèque.
Pour quelle raison?
Parce que 25 ans après sa disparition, cette fille est devenue l'objet d'un culte parmi certains élèves actuels du lycée.
Cette fille, tu parles de Vinca?
Zélie hocha la tête.
Depuis 3 ou 4 ans, on a constaté que le livre de Stéphane était constamment emprunté. On en avait plusieurs exemplaires, mais la liste d'attente était longue comme mon bras. La figure de Vinca revenait souvent dans la conversation des élèves. L'année dernière, les hétérodites ont même monté un spectacle autour d'elle.
Les hétérodites?
C'est un groupe de jeunes filles brillantes, élitistes, féministes. Une sorte de sororité qui reprend les thèses d'un groupe féministe new-yorkais du début du XXe siècle. Certaines d'entre elles vivent dans le pavillon Nicolas de Staël et se sont fait tatouer le symbole que portait Vinca sur la cheville.
Je me souvenais de ce tatouage. Les lettres GRL, PWR, discrètement gravées sur sa peau. Girl Power. Le pouvoir aux femmes. Tout en continuant ses explications, Zélie ouvrit un document sur son ordinateur. C'était l'affiche d'un spectacle musical, Les derniers jours de Vinca Rockwell. Le poster me fit penser à la pochette d'un album de Belle et Sébastien. Photo en noir et blanc, filtre rose pâle, lettrage chic et arty.
On a eu droit aussi à des soirées de recueillement dans la chambre qu'occupait Vinca, à un culte morbide autour de certaines reliques, ainsi qu'à la commémoration du jour de sa disparition.
Comment tu expliques que les millennials se passionnent pour Vinca? Zélie leva les yeux au ciel.
J'imagine que certaines filles s'identifient à elle, à son histoire d'amour romanesque avec Clément. Elle incarne une sorte d'idéal trompeur de liberté, et sa disparition à 19 ans l'a figée dans un éclat d'éternité.
Tout en devisant, Zélie avait quitté sa chaise pour explorer les étagères métalliques
qui s'étendait derrière le long comptoir d'accueil. Elle finit par revenir avec l'ouvrage de Pianelli.
« J'en ai gardé un, si tu veux le feuilleter, » soupira-t-elle.
Je passai la paume de ma main sur la couverture du livre. « Je n'arrive pas à croire que vous censuriez ce bouquin en 2017.
C'est pour le bien des élèves.
»« Tu parles. Une censure à Saint-Exupéry, c'est pas du temps de mes parents qu'on aurait vu ça. »
Zélie me fixa un instant, très tranquillement, avant de me balancer un scud.
« Le temps de tes parents ne s'est pas très bien fini, si j'ai bonne mémoire. »
Je sentis la colère déferler dans mes veines, mais parvins à garder une apparence de calme.
« Tu fais référence à quoi ?»« À rien, » répondit-elle prudemment.
Je savais, bien sûr, à quoi elle faisait allusion. Le magistère de mes parents sur le lycée avait pris fin brusquement en 1998, de façon très injuste, lorsqu'ils avaient tous les deux été mis en examen dans une affaire obscure de non-respect des règles de passation des marchés publics. C'était l'illustration parfaite du concept de victime collatérale. Yvan de Bruyne, le procureur de la République de l'époque, et le père du flic qui s'apprêtait à interroger Maxime, s'étaient mis en tête de faire tomber certains élus de la région qu'ils soupçonnaient de recevoir des pots de vin, notamment de la part de Francis Biancardini. Depuis longtemps, le procureur avait l'entrepreneur dans son collimateur. Si la plupart des rumeurs qui couraient sur Francis étaient absurdes, on prétendait parfois qu'il blanchissait de l'argent pour la mafia calabraise, d'autres semblaient plus fondées. Sans doute avait-il arrosé certains politiques pour obtenir des marchés publics. C'est donc en essayant de faire tomber Francis que le procureur vit apparaître le nom de mes parents au détour d'un dossier. Francis avait effectué plusieurs chantiers dans le lycée sans respecter tout à fait les règles des appels d'offres. Dans le cadre de l'enquête, ma mère avait passé 24 heures en garde à vue, assise sur un tabouret dans la sordide caserne Auvard, le commissariat du nord-ouest de Nice. Le lendemain, une photo de mes parents faisait la une du journal local. Le type de montage en noir et blanc qui n'aurait pas dépareillé au milieu d'un diaporama sur les couples de tueurs en série. Quelque part entre les amants sanguinaires de l'Utah et les fermiers meurtriers du Kentucky. Déstabilisés par cette épreuve à laquelle ils n'étaient pas préparés, ils avaient tous les deux démissionné de l'éducation nationale. Même si je ne vivais plus sur la Côte d'Azur à l'époque, l'affaire m'avait affecté. Mes parents avaient leurs défauts, mais ils n'étaient pas malhonnêtes. Ils avaient toujours exercé leur métier dans l'intérêt de leurs élèves et ne méritaient pas cette sortie infamante qui jetait le soupçon sur tout ce qu'ils avaient accompli. Un an et demi après l'ouverture de l'enquête, le dossier avait été reconnu comme vide et avait débouché sur un non-lieu. Mais le mal était fait. Et aujourd'hui encore, des abrutis ou des êtres sournois comme Eileen Zélie Boukmans pouvaient remuer cette merde au détour d'une petite phrase sans avoir l'air d'y toucher. Je la défiais du regard jusqu'à ce qu'elle baisse les yeux vers son clavier d'ordinateur. Malgré son âge, malgré sa bouille de mamie gâteau, je lui aurais volontiers fracassé la gueule à coups de clavier. Après tout, moi, j'étais un vrai criminel. Mais je n'en fis rien. Je ravalai ma colère en gardant mes forces pour avancer dans mon enquête. « Je peux l'emporter ?» demandai-je en désignant le livre de Pianelli.
« Non. Je te le ramène avant lundi, promis. »« Non, » rétorqua Zélie, inflexible. « Il appartient à l'établissement. »
Sans tenir compte de sa remarque, je glissai le livre sous mon bras et tournai les talons en lui lançant.
« Je crois que tu te trompes. Vérifie dans la base de données, tu verras que le livre n'est pas référencé. »
Je sortis de la bibliothèque et contournai l'agora. À mon tour, j'empruntai le chemin de traverse qui permettait de quitter le campus en coupant par les champs. La lavande était particulièrement précoce cette année, mais ses émanations florales ne cadraient pas avec mes souvenirs, comme si quelque chose s'était déréglé. Porté par le vent, les effluves métalliques et camphrées qui montaient jusqu'à moi avaient l'odeur entêtante du sang.